Bonjour, nous nous retrouvons sur Radio Ondaine pour la diffusion de notre podcast qui traite du sujet de l'agroécologie. Ce podcast s'inscrit dans notre formation en BTS Métier du Végétal. C'est une formation qui a pour but de nous former sur plusieurs aspects comme la technique ou encore l'économie d'entreprise. Pour ce podcast qui a pour problématique les labels freinent-ils le développement de l'agroécologie, nous avons interviewé plusieurs acteurs locaux.
Le podcast se divise en trois parties. Une première partie autour de la présentation de l'agroécologie.
Dans une deuxième partie, nous abordons la place des labels dans l'agroécologie grâce à des interviews de différents acteurs qui nous partagent leur point de vue. Enfin, nous abordons dans une troisième partie les limites des différents labels.
Nous étions quatre pour faire ce podcast sans aucune connaissance ni formation dans le monde de la radio. On s'est donc lancé dans la production en découvrant à tâtons les logiciels de montage, tout en essayant de trouver des acteurs motivés à être interviewés. L'agroécologie est un sujet nouveau et méconnu. Cela complique beaucoup les choses. Pour ce faire, nous avons donc divisé les tâches.
Alexis au montage.
Tina à la rédaction des textes.
Mathieu à la mise en forme des enregistrements.
Et enfin, Hugo à la narration. Et je vous emmène avec moi sur Radio Ondaine pour découvrir ce podcast. Bienvenue dans cet épisode consacré à l'agroécologie. Aujourd'hui, nous allons explorer la place qu'occupent les labels dans son développement, autour de la problématique suivante. Est-ce que les labels freinent le développement de l'agroécologie ? Le monde agricole traverse actuellement une période d'extrême tension. Sécheresse, orages dévastateurs, pluies torrentielles, perte de rendement, inflation des matières premières, concurrence déloyale, surcharge administrative, multiplication des normes, perte d'attractivité du métier. Les défis sont nombreux et s'accumulent. Souvenez-vous, début 2024, la colère du monde agricole s'était exprimée à travers des manifestations et des blocages massifs qui avaient paralysé une partie du pays pendant plusieurs semaines. Face à la pression, les responsables politiques avaient annoncé une série de mesures qui se sont révélées pour beaucoup insuffisantes ou non appliquées. Et pourtant, malgré ce contexte explosif, un traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur pourrait être voté début 2026, ravivant encore les inquiétudes des agriculteurs européens. L'agriculture fait face à des enjeux nombreux et complexes. Dans cet épisode, nous vous proposons de nous concentrer sur l'une des voies possibles, l'agroécologie. Quand on parle d'agroécologie, on se rend vite compte d'une chose. Il n'existe pas de définition vraiment claire et universelle. Chacun y va de sa propre interprétation. Certains misent sur la réduction des intrants, d'autres sur la biodiversité, d'autres encore sur des pratiques plus autonomes ou plus respectueuses du sol. Au final, tout le monde met en place ses actions dites agroécologiques, mais sans véritable cahier des charges, sans règles précises qui diraient « voilà, ça, c'est de l'agroécologie ». Et c'est là que ça devient intéressant. Ce flou donne une grande liberté, mais il peut aussi rendre le concept un peu difficile à définir.
Dans cette première partie, nous vous proposons de définir l'agroécologie. Pour ce faire, nous avons interviewé des acteurs de cette thématique. Le premier acteur est le PAT, ou Projet Alimentaire Territorial, qui vise à favoriser une alimentation locale, saine, résiliente et accessible à tous.
Le travail qu'on a réalisé auprès de nos élus, notamment, ça a été d'essayer de mettre en forme qu'était l'agroécologie à travers les missions de la collectivité. Donc dans cet arbre, il y a plusieurs branches. Donc un des axes de travail, c'est de travailler sur la fertilité des sols, avec derrière la mise en place de différentes actions liées à la fertilité des sols. Donc l'objectif étant de maintenir la fertilité des sols. Ensuite, on a un territoire très herbagé. Donc on a des axes d'action qui ciblent vraiment la gestion herbagère. On a également tout un volet lié aux études et à l'acculturation. C'est cultiver une culture, pas au sens « je sème des graines », cultiver une culture morale partagée avec les différents acteurs du territoire, que ce soit avec les élus, que ce soit avec les exploitants agricoles. Donc c'est rentrer dans la culture de l'agroécologie. Ensuite, on a la valorisation économique, qui est un des piliers de l'agroécologie. Et là, elle est directement liée à la relocalisation de la production et à la valorisation des productions locales. L'autre branche, c'est la gestion de l'eau, puisque l'eau est un bien commun et qui subit différentes pressions, des pressions liées à l'usage domestique. L'eau, elle est aussi utilisée par l'agriculture, elle est utilisée par les industries. La dernière branche, c'est tout ce qui tourne autour des haies, des arbres champêtres.
Le second acteur est Aymeric Châtel. Situé à Sabonnay-les-Oules, Aymeric cultive 3 hectares de légumes en agriculture biologique. Avec une équipe composée de 2 salariés à temps plein et d'un apprenti, il propose une production diversifiée, vendue directement aux consommateurs et à une plateforme de commercialisation.
Pour moi, le modèle agroécologique, il n'y a pas forcément de belles valeurs sur papier ou quoi que ce soit. Je pense que si tout le monde met un peu la main à la pâte, ça peut faire. Pour nous, pour notre part, je pense qu'on fait le maximum. Les panneaux solaires vont arriver sur le bâtiment. On est en bio depuis plus de 10 ans. Et je pense qu'on réfléchit tout le temps aux livraisons pour éviter de consommer au maximum de gasoil. Et voilà, qu'on est vraiment en circuit très court, même avec la plateforme qui est juste à Saint-Étienne, à quelques kilomètres.
Le troisième acteur interviewé,
est la ferme au quartier. David Maison, co-gérant de la ferme au quartier, qui est une coopérative qui regroupe des producteurs. L'objectif de cette coopérative, c'est de créer des filières en commercialisant des produits bio et locaux. Cette structure permet aux producteurs de mutualiser leurs efforts pour mieux valoriser leur production, tout en offrant aux consommateurs des produits sains et issus de circuits courts.
L'agroécologie, en un mot très simple, je dirais prendre soin du territoire, de l'environnement.
Le quatrième et dernier acteur, c'est Copsol. Jade travaille au sein de l'association Copsol, qui produit des légumes biologiques. Elle participe à la production et à la distribution de ses légumes dans des lieux sociaux, comme le Secours Populaire, des épiceries solidaires, permettant ainsi un accès à une alimentation saine et locale pour tous. Pour pouvoir commercialiser leurs produits, l'association doit être certifiée en agriculture biologique, garantissant la qualité et le respect des normes bio.
Pour moi, c'est une production. Par exemple, souvent, quand je pense ferme agroécologique, je vais penser à une ferme où il va en même temps y avoir un atelier de maraîchage et en même temps un élevage, et du coup, ils vont pouvoir se complémenter. C'est un peu une... si on l'applique à l'agriculture, quelque chose qui va réussir à raisonner un peu en circuit fermé, pas dépendre d'intrants chimiques qui vont être produits sur Père Loin ou qui vont détruire les sols qu'on cultive.
D'après nous, l'agroécologie est une approche qui intègre les principes écologiques dans la gestion des agrosystèmes, avec pour objectif principal d'assurer une production durable, résiliente et respectueuse de l'environnement. Cette approche considère l'ensemble du système agricole, incluant les sols, les plantes, les animaux, l'eau, l'air, ainsi que les interactions sociales et économiques, afin de renforcer la durabilité et la résilience des exploitations. Dans cette deuxième partie, nous allons nous intéresser à la place qu'occupent les labels dans l'agroécologie. Le label qui a sa place, c'est le label AB.
Totalement dedans pour moi.
Le bio, pour moi, on n'est pas trop mal. Après, il y a des variations qui se font aussi. Après, il n'y a pas d'idéal. Il faut tout le temps construire autour de tout ça. Et après, on verra la suite. Mais il n'y a pas forcément... Tout peut être amélioré.
Et du coup, est-ce que c'est obligatoire d'avoir un label pour produire de manière agroécologique ?
Après, je trouve que c'est important qu'on ait un contrôle, qu'on ait de l'aide pour s'installer comme ça, pour produire comme ça. C'est pas juste avoir un label pour prouver et dire on est en bio, c'est aussi tout un travail à côté en amont, comprendre aussi les sols, comprendre aussi toute la vie qu'il y a autour du maraîchage et tout ça. Enfin, c'est un ensemble qu'il faut vraiment lier et pas que un label, on se fie au cahier des charges et basta quoi. C'est vraiment une idéologie, un ensemble à avoir.
On a alors posé une question au PAT. Est-ce qu'il considère que la permaculture et l'agroforesterie sont des pratiques agroécologiques ? Ils nous ont répondu.
Oui.
Des pratiques qui parfois ne peuvent pas être utilisées en AB et qui ne sont reconnues par aucun label malgré leurs pratiques vertueuses. Mais pour certains acteurs, ils n'excluent pas la nécessité de créer un label agroécologie.
Il faudrait peut-être un label agroécologie.
La ferme au quartier, un circuit de commercialisation regroupant plusieurs producteurs, considérait aussi que le label bio pratique des techniques agroécologiques.
L'agriculture biologique, plus qu'on commercialise.
A décidé il y a quelques années de commercialiser des produits uniquement issus de l'agriculture biologique. Mais alors, pourquoi ce choix ?
Ça va pas être un changement radical, c'est plutôt une continuité. À la base, on avait une partie des produits qui n'avaient pas forcément de label et d'autres qui en avaient. Donc ça a été aussi une continuité à la fois par rapport aux producteurs avec lesquels on travaillait, parce qu'on travaillait de plus en plus avec des producteurs labellisés et labellisés en culture biologique, mais également aussi c'était sur les choix qu'on veut sur notre territoire en termes de typologie d'agriculture et également aussi ce qu'on souhaite amener avec les différents partenaires qu'on a avec la ferme au quartier, parce qu'on a des partenaires notamment le Biocop qui est partenaire depuis des années avec lesquels on prône une agriculture biologique et locale, mais également aussi avec les partenaires des différentes collectivités où aujourd'hui il y a une volonté de certains élus de développer le bio. Et notamment dans la collective où depuis il y a une loi Egalim qui est passée depuis un petit moment qui favorise le développement de ces produits-là au sein des cantines.
Pour de nombreux agriculteurs interviewés, les labels permettent de structurer les changements, de mettre en place un cadre. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière ces étiquettes très réglementées, il existe aussi des agriculteurs qui vont beaucoup plus loin que ce que demandent les labels. Prenons par exemple le cas de Camille Massacrier, qui ne souhaitent pas se labelliser.
Les raisons étaient déjà financières, puisque le label, c'est quelque chose auquel il faut appartenir financièrement, répondre à un cahier des charges important, élevé. Et aujourd'hui, c'est pas parce qu'on n'a pas de label qu'on ne produit pas proprement des plantes de qualité. Ce qui pourrait m'aider à me labelliser sur différents labels, notamment environnementaux, c'est l'accessibilité à certaines subventions et à certains critères de reconnaissance de gages de qualité supplémentaires. Le fait de ne pas avoir de label ne me rend pas éligible à certains dépôts dossiers de subventions ou à certains marchés publics sur la fourniture de végétaux, par exemple. Alors sur les pratiques agroécologiques qu'on a pu mettre en place, donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'agroécologie, c'est un mélange d'écologie et d'agriculture. Donc on a pu mettre en place, en se servant de la biodiversité qui nous entoure, des compléments sur la faune auxiliaire, c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui des lâchers qui viennent en complémentarité des auxiliaires déjà présents naturellement sur les haies qui nous protègent ou sur les champs qui sont aux alentours de l'exploitation. Et puis, c'est sur la réduction drastique des produits phytosanitaires issus de la chimie de synthèse.
Camille Massacrier n'est pas le seul. De nombreux agriculteurs mettent en place des pratiques plus vertueuses que certains producteurs pourtant labellisés. Cela montre bien une réalité souvent méconnue du grand public. La qualité environnementale du ferme ne se résume pas à un logo. Derrière chaque exploitation, il y a des convictions, des méthodes et des engagements très variés. Et parfois, les démarches les plus ambitieuses sont celles qui ne rentrent pas encore dans les cases. L'enjeu aujourd'hui, c'est peut-être justement d'apprendre à regarder au-delà de l'étiquette. Dans cette troisième partie, nous allons vous parler de ces labels. Il en existe beaucoup et on peut vite s'y perdre. Vous avez normalement déjà les deux principaux labels, le bio et le HVE. Savez-vous vraiment ce qu'ils veulent dire ?
Le label AB, typiquement, on demande à des agriculteurs qui ont des pratiques vertueuses, qui vont tout faire pour utiliser au mieux les composantes des écosystèmes qu'ils exploitent, on leur demande de montrer patte blanche sur toutes leurs pratiques. D'accord ? Ils ont le label AB. En gros, il faut que tu prouves que t'es très bon, très vertueux et pour avoir le label. Et d'un autre côté, on va demander quasiment aucun compte à une agriculture plus intensive, plus productive, qui va avoir des impacts plus importants sur la qualité de l'eau, sur la perte de fertilité des sols. Je pense que le label bio est un label qui, tel qu'il est fondé, permettrait d'avoir des plus-values, mais face à la majorité de la production agricole, subit. Et du coup, subit aussi les lois du marché, alors que le marché bio pourrait avoir sa propre autonomie. Et de l'autre côté, on a un marché majoritaire, non bio, où l'objectif est la production et la productivité, parfois, et pour moi, au détriment de l'environnement et surtout au détriment de l'humain. Derrière la productivité, il y a de la production, il y a du travail humain. Ce travail humain, je pense qu'en termes de charge de travail, il est très très important.
Le label Agriculture Biologique a été créé en 1985. Il est encadré par une réglementation européenne appliquée de manière harmonisée par tous les États membres. Le label AB garantit une production qui allie les meilleures pratiques environnementales, le respect de la biodiversité, la préservation des ressources naturelles. Elle permet donc d'offrir aux consommateurs des produits fiables. Cependant, le label AB utilise des produits très nocifs pour l'environnement comme le Nimazal, qui est un insecticide provenant d'un extrait de pyrèthre, qui est dangereux pour la biodiversité. Il tue même les pollinisateurs. Et ce n'est pas tout. Il est même toxique pour la reproduction des hommes. Le label interdit même l'utilisation de pratiques alternatives comme les purins et ne garantit pas de pratiques vertueuses. Par exemple, les serres en Espagne consomment beaucoup d'eau. Il ne garantit pas de bonnes conditions et rémunération des travailleurs. Et de plus, il ne prend pas en compte le bilan carbone. Le label HVE signifie haute valeur environnementale. Vous avez déjà dû voir ce label sur les bouteilles de vin ou encore sur les produits alimentaires, avec un logo qui représente un joli paysage, avec des papillons, des arbres et un champ. Mais en réalité, le HVE est une belle opération de greenwashing. Il n'interdit pas grand-chose. Par exemple, les pesticides et engrais chimiques de synthèse sont autorisés. Certains produits sont même CMR2, des agents chimiques supposés être cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Même la culture hors sol est autorisée en HVE, avec parfois des serres chauffées et éclairées même en pleine nuit et en hiver. Vous l'aurez donc compris, dans chaque label, il y a des aberrations. Néanmoins, le label bio reste le plus vertueux de France. Pour savoir quels produits sont les meilleurs, il vous suffit de vous rapprocher des producteurs locaux, de discuter avec eux sur leurs pratiques. Car oui, des agriculteurs non labellisés peuvent vous proposer des produits très qualitatifs et respectueux de leur environnement.
Pour conclure, comme vu tout au long de notre podcast, l'agroécologie se met en œuvre sur les territoires à travers des pratiques plus ou moins vertueuses, qui peuvent par exemple passer par l'obtention d'un label, la réduction des intrants ou encore la mise en place de modes de production plus respectueux de l'environnement. Cependant, si les labels peuvent être bénéfiques, ils soulèvent également de nombreux questionnements tant sur leur sincérité que sur leurs objectifs. Par exemple, certains producteurs se limitent strictement au cahier des charges des labels, sans chercher à aller plus loin ni à améliorer leurs pratiques au maximum. De plus, certains labels peuvent parfois sembler incohérents en autorisant l'utilisation de produits phytosanitaires qui nuisent autant à la santé qu'à l'environnement, tout en affichant une promesse de production durable. Malgré tout, le sujet reste très complexe. La réalité du terrain est souvent bien différente de l'idéal auquel on peut aspirer. Les agriculteurs sont parfois contraints de recourir à des labels, non par conviction, mais parce que les conditions économiques de leur métier les y obligent. Les consommateurs sont, eux, aussi perdus face à la quantité des labels. Il est donc parfois difficile à l'agroécologie de s'insérer dans un monde agricole déjà très fracturé et labellisé qui néanmoins persiste dans l'agriculture et l'enseignement. Voilà, vous venez d'écouter notre podcast consacré à l'agroécologie. Ce podcast a été réalisé dans le cadre d'une épreuve par des étudiants en BTS métier du végétal en alternance. Nous étions 4 pour la réalisation de ce podcast.
Tina,
Mathieu,
Alexis
et Hugo. Merci à tous les acteurs de nous avoir reçus pour les interviews et surtout, merci à tous de nous avoir écoutés.